Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Bibibi binge audio, big podcast only.
Donc j'ai été blogstar déjà il y a quelques semaines. Donc je voudrais remercier tous ceux qui me suivent depuis le début. Un grand merci aussi à l'équipe Skyrock.
T'as été blogstar toi ?
J'ai jamais été blogstar. Ma fanfiction sur Bébé Brune n'a jamais passé.
Je suis tombée sur une ancienne photo Skyblog.
On est maintenant sur mon tout premier Skyblog, bordel. Alors là, c'est vraiment kikoulande.
Je n'ai pas créé un Skyblog, mais trois Skyblogs.
Au collège, j'étais jeune.
Là, t'entres dans ma vie privée, alors XD, tais-toi.
Le web était plus simple.
Oui, alors souvent, ce que je dis maintenant, quand je me présente, c'est que j'ai été l'auteur de la première version des Skyblogs. Alors ça me donne une espèce d'importance.
Yann Thomas Gérard, ancien développeur de Skyblog.
Personnellement, j'en avais pas conscience. Je voyais bien qu'il y avait un attrait particulier pour cette plateforme, mais comme on était concentré en fait sur la production, je pense qu'on n'avait pas le recul aussi nécessaire. Donc c'est que en fait, en ayant quitté l'entreprise, qu'on venait me parler et me disait « Ah, mais c'est toi qui as fait les Skyblog. Ah, mais t'es trop un dieu, mais ça a dû être génial !»
Alors voilà, je vous ai raconté l'histoire des Skyblog. Leur début un peu chaotique, leur succès explosif et comment ils ont marqué l'histoire populaire française. Maintenant, vous devez vous dire que je n'ai plus rien à vous raconter. En 2020, on va sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. On n'a plus de Skyblog. C'est vrai que le web a changé, mais ça ne veut pas dire que les Skyblog n'ont plus d'importance. Déjà, le site Skyrock existe toujours. On continue de fréquenter ses blogs, ses chats en ligne et aussi ses applications mobiles.
Il y a deux types de profils. Il y a surtout des gens qui ont eu un Skyblog quand ils étaient adolescents. Donc c'est vraiment la partie 25-35 ans.
Pauline Ferrari est journaliste. Elle a écrit plusieurs articles sur le Skyblog d'aujourd'hui.
Et qui, en fait, comme ils l'ont investi à un moment donné, ils continuent à l'alimenter. Ils ont mis du temps, ils ont mis de l'énergie, donc ils continuent à l'alimenter plus ponctuellement, on va dire. Et eux sont des personnes qui sont sur d'autres plateformes, notamment sur Instagram, notamment sur Facebook. Je me rappelle un musicien avec qui j'avais parlé qui me disait « Moi, j'ai mes créations sur plein d'autres canaux, et notamment sur SoundCloud, etc. » Mais si mon Skyblog peut aider à faire découvrir ma musique à une personne, je serais content, quoi. Et après, il y a cette autre catégorie d'âge qui sont des gens un peu plus âgés, qui ont plus la quarantaine, 40-50, et en fait, souvent des gens qui font partie d'associations, ou en tout cas de groupements de personnes, des anciens de la Fédération de mécanique, des colombophiles, des gens d'une même ville ou d'une même association de pétanque, par exemple, qui sont des personnes donc plus âgées, qui viennent pas forcément de grandes villes, qui viennent plus de populations un peu plus rurales, et qui se réapproprient ces codes-là. Parce que Skyblog est une plateforme simple d'utilisation, de prise en main, qui permet une grande personnalisation. Et ça remplace en fait un site web pour beaucoup d'associations. Et ça permet de créer du lien, de commenter, etc. Un peu comme sur Facebook pour certains.
Aujourd'hui, on trouve encore des Skyblogs sur plein de sujets. On y parle de Rihanna, d'Harry Styles, de Johnny Hallyday, de poésie, de cinéma, de manga, de voitures anciennes et même de colombophilie. Pour info, la colombophilie, c'est l'art d'élever et de faire concourir des pigeons voyageurs. J'ai découvert que c'était une communauté très active sur skyrock.com. En me baladant de blog en blog, j'ai fini par croiser la route virtuelle de Robert Desauvages. Depuis 2008, il tient le blog notretourcoing.skyrock.com, dédié à la ville de Tourcoing. Il y publie ses photos, des archives municipales, ainsi que des images envoyées par d'autres internautes.
Ce site avait été suggéré par mon fils Marc, qui lui a même aussi un blog « Votre Tourcoing ». Et puis j'ai commencé à écrire, et puis j'ai lié des liens avec des gens qui avaient le même désir de moi, parce que je me suis aperçu que comme ma maman était âgée, elle avait des souvenirs du passé, mais pas du présent. Donc j'ai voulu un peu oublier mes soucis, me mettre la passion de ma ville qui était dedans. J'ai continué Skyblog parce que c'est un système qui est facile, stable, gratuit et fidèle. C'est une bonne base de travail pour des gens qui veulent pas trop se casser la tête. Et je me suis aperçu que derrière tout ça, il y avait des gens comme moi qui étaient passionnés, chacun avec leur motivation, et puis qu'on pouvait partager. Aujourd'hui, je suis en train de faire un tri parce que j'en ai tellement. Donc j'ai mis photos diverses de Tourcoing parce que c'est tout un travail. Sur Skyblog, je suis sûr qu'elle ne bouge pas. J'ai jamais perdu une photo sur Skyblog. J'ai jamais perdu un article. J'ai jamais eu de soucis. C'est pas la même chose. Le Facebook, vous venez, vous crachez votre venin, vous répondez à une question que vous n'avez même pas lue sur une photo, et puis c'est tout. Vous partez. Vous êtes fier d'avoir jeté votre phrase, votre raison, votre préemption, et en fait, non, vous n'avez rien fait.
Pendant mon enquête, beaucoup de gens avec qui j'ai discuté m'ont dit la même chose que Robert. Ils regrettent un peu l'époque des Skyblogs, le web d'avant. Celui où on pouvait discuter facilement avec des inconnus, sans que cela ne dégénère. Celui où on parlait pas encore de cyberharcèlement, de doxing, de fake news, de surveillance en ligne. Les Skyblogs étaient loin d'être parfaits. Mais pour beaucoup, il représente une époque où le web était plus simple.
Le web était plus simple. Le web était plus simple.
Ce que j'adore en fait par rapport à Skyblog et ce dont je me rends compte maintenant, c'est qu'aujourd'hui en fait sur nos réseaux sociaux, les contenus sont très cadrés en fait.
Eux, ce sont Geoffrey et Nicolas. Ils gèrent un compte Instagram qui s'appelle Skyblog Museum, où ils postent des pépites d'anciens Skyblogs.
Par exemple, sur Facebook, tu vas avoir une seule manière d'écrire du texte, tu vas avoir un certain nombre d'émojis, et tout est assez intuitif, alors qu'à l'époque de Skyblog, c'était pas vraiment le cas, et il y avait tout un tas d'astuces. Moi, ce que j'adorais, c'était mettre mon texte en couleur arc-en-ciel, il y avait une petite formule à rentrer dans le texte, il y avait des choses comme ça, et c'était à la fois de la liberté, et en même temps, c'était très fragile, parce que tu faisais pas gaffe, t'étais pas graphiste, et à la fin, ton truc était juste horrible à lire.
Il y avait une sorte de liberté, en fait, à l'époque, on se rend compte. Les gens postaient n'importe quoi, de manière ultra codifiée, c'est-à-dire qu'on retrouve quand même énormément de codes d'un truc à l'autre, les gens se copiaient énormément, ça, il n'y a pas de souci, mais il y a beaucoup de blogs, quand même, qui sortent un peu du lot, où les gens postent n'importe quoi, souvent avec peu d'audience, parce qu'on savait justement qu'il y avait peu d'audience et que au final, le risque, c'était d'être vu seulement par ses amis, sa famille, les gens qui savaient que le blog existait, quoi. Donc, oui, c'est clair que la plupart des gens... ou un peu honte de leur Skyblog. Après, on est étonné parce que j'ai eu dans mes contacts, quand des gens ont commencé à comprendre qu'on avait fait cette page, j'ai eu dans mes contacts des gens qui ont commencé à me dire « Ah, mais il faut que je te montre mon Skyblog », tu vois, et qui ont complètement, qui comprennent totalement le ridicule de ce qu'ils ont posté à l'époque, mais qui sont limite fiers d'un point de vue, c'est drôle, quoi, qui se tournent eux-mêmes en dérision et qui nous incitent à les poster, quoi.
Ça, c'est un autre truc que j'ai beaucoup entendu. Mais au fait, nos anciens Skyblogs, que sont-ils devenus ? En France, depuis 2006, la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, et l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, archivent une partie du web français. Le but est de garder une trace de nos pratiques en ligne. Cet archivage se fait généralement par thème, par exemple l'élection française de 2017. L'INA et la BNF font des copies de sites de médias, de discussions sur les réseaux sociaux et aussi, parfois, de nos anciens Skyblogs.
Vidéo magique en cours, des moments que je ne veux pas oublier avec Brandon, Momo, Maxence, Faha, Maxime, Seb, Vince, Pablo. Et mon bébé, je t'aime.
Je suis Thomas Drujon. Je suis ingénieur recherche et développement à l'INA sur le projet de dépôt légal du web. C'est l'archive de l'audiovisuel sur le web. Et donc, on est amené à capter comme ça des sites. On a à peu près à l'heure actuelle 100 milliards de ressources qu'on a captées sur le web depuis 2009. Donc, on a commencé à capter de manière industrielle, on va dire, en 2009.
Et du coup, l'archivage des Skyblog, vous le menez parce que c'est lié à la radio Skyrock ?
Oui, tout à fait. Et également parce que c'était le lieu sur lequel on avait énormément de blogs relatifs à des émissions radio et télé ou à des présentateurs, etc., plus ou moins officiels. Donc, même si ça n'avait pas été hébergé directement par Skyrock, on aurait été amené à le collecter.
Comment est-ce que vous déterminez, à l'INA, les Skyblogs qui vous intéressent ?
On a identifié une liste de blogs spécifiques qui nous intéressaient. Donc, on en a identifié 750. Qui sont des blogs relatifs à des émissions ou à des présentateurs. Donc, par exemple, on avait 130 blogs sur Plus belle la vie.
D'accord.
Et une vingtaine sur Secret Story. Et ensuite, en fait, la majorité, on va dire 95% de ces blogs, c'est lié à des émissions de séries ou de télé-réalité. Le reste, ça va être des acteurs de séries françaises ou des présentateurs.
Quel est l'intérêt, en fait, de sauvegarder autant de Skyblog ?
Le web a ce site particulier qu'il donne l'illusion qu'il s'archive lui-même. On a l'impression que, au fond, ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'archiver un site web parce qu'on va pouvoir revenir. Peut-être que la présentation du site aura changé, mais les données y seront. Mais en fait, c'est assez trompeur comme phénomène. C'est-à-dire que on a l'impression que ça se conserve, mais en réalité, ça ne se conserve pas autant que ça. Et en plus, quand ça ne se conserve pas, on ne s'en aperçoit pas. C'est-à-dire, c'est comme si on perdait les feuilles d'un arbre, mais on perd également les branches qui mènent aux feuilles. Donc, on ne sait même pas que ces feuilles ont existé.
T'en as eu honte à un moment de cette expérience de Skyblog ?
Non, j'en ai pas eu honte, mais si je devais aujourd'hui utiliser les médias pour quelque chose, je l'utiliserais à but positif et non pour jeter toute ma tristesse comme j'ai pu le faire. Encore une fois, j'étais une adolescente. Cette période a été assez compliquée pour moi et pour mes parents aussi. Je considère avec le recul que je n'étais pas une adolescente facile. Je ne me satisfaisais pas du tout des choses que j'avais à l'époque. Et donc voilà, en aucun cas aujourd'hui, avec le recul, je trouverais cette démarche positive, pour être honnête.
Je pense que ça m'a aidé à découvrir qui j'étais, ce que j'aimais, à assumer peut-être un aspect un peu geek de ma vie que j'assumais pas jusqu'alors, ou alors que je ne connaissais pas tout simplement. Et aujourd'hui, bah voilà, c'est ma vie. Enfin, pas Skyblog, mais le côté un peu geek, ça fait partie de moi. Et je pense véritablement que mon métier d'aujourd'hui, qui consiste globalement à gérer la construction de plateformes technologiques, je le dois notamment grâce à ce Skyblog, parce que ça m'a donné le goût d'Internet, quoi. C'est grâce à ça que derrière, je me suis dit, tiens, je vais aller créer des sites web, et qu'aujourd'hui, en fait, je ne les fais pas moi-même, hein, j'ai des équipes pour ça, mais c'est mon métier et je pense que tout le crédit vient à la base de ce Skyblog.
Là, maintenant, tu bosses dans la mode, enfin, en tout cas dans le luxe. Est-ce que tu penses que sans ces deux Skyblogs qui ont bien fonctionné à l'époque, t'aurais eu la carrière que t'as eue aujourd'hui ?
Bah, honnêtement, je pense pas, parce que par exemple, avant que mon blog soit Blogstar, je faisais des études, enfin, j'avais une option audiovisuelle et de base, je voulais me lancer dans le cinéma. Donc, enfin, je veux pas dire rien à voir parce que ça avait rapport à l'image aussi, tu vois, mais ce qui m'a poussé à faire des études de photo, c'est aussi le fait que mon Skyblog, il est marché, parce qu'il y avait maintenant des milliers de gens qui me disaient « Oh, elles sont incroyables tes photos !» Donc je vais pas dire que c'est eux qui ont fait que, mais forcément, ça m'a poussé à avoir un peu plus confiance en moi et à me dire « Mais pourquoi pas, en fait, je vais peut-être faire des études de photo !» Et c'est ça qui m'a amené à travailler en tant que photographe aussi dans la mode après, à faire du stylisme, etc. Donc en soi, c'est sûr que j'aurais... Enfin, je ne serais pas là où je suis maintenant, ça c'est clair. Je ne sais pas où je serais, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais le blog m'a permis même de quitter ma petite cambrousse, tu vois, en soi, parce que c'est ce qui m'a permis de rencontrer des gens à Paris, de visualiser la capitale, on va dire, sans en avoir peur, de me dire « Ah, j'ai envie de vivre là, il y a des possibilités ailleurs, et pas juste ce que je vois au quotidien. » Donc ça a vraiment ouvert des portes, mais je pense même, je ne me rends même pas compte de toutes les portes que ça a ouvert, en fait. C'est ça le truc, c'est que... Sinon, c'est un peu angoissant, tu vois. Si tu commences vraiment à réfléchir à toutes les choses que ça a influencé, c'est, c'est rude de me dire que ma vie elle est scalée parce que j'étais blogstar dans ma vie, tu vois. C'est un peu bizarre, surtout que maintenant, enfin, Skyblog, tu vois, les gens, enfin la nouvelle génération, ils savent même pas ce que c'est, tu vois, ou alors ils comprennent pas, tu vois.
Que reste-t-il des Skyblog? Quand j'ai débuté cette enquête, je pensais que j'allais surtout rigoler. Un peu comme quand on se remémore les choses ridicules qu'on a fait quand on était ado. Mais finalement, j'ai découvert plein de choses. L'histoire d'un site en avance sur son temps, qui a failli devenir le premier et le seul géant du web français. Celle de jeunes internautes qui ont découvert leur vocation, voire leur identité, grâce à leur Skyblog. Et puis surtout, cette enquête m'a fait réfléchir sur ce qu'on fait en ligne aujourd'hui, et ce qu'on aimerait y refaire. Le web de 2020 est occupé par d'immenses plateformes, avec des audiences se chiffrant en milliards d'individus. C'est un espace qui est gangréné de problèmes. La désinformation, le cyberharcèlement, l'absence de modération. Or, la majorité de ces enjeux découle directement de la centralisation du web. C'est pour cela que certains militants et politiques réclament désormais le démantèlement des géants d'Internet. Petit à petit, la résistance s'organise. On veut redevenir anonyme en ligne, avoir une audience plus réduite. On utilise des pseudos. On se crée des comptes privés sur Instagram ou Twitter, juste pour ses amis. On se réfugie dans des groupes Facebook dédiés à un seul sujet. Peut-être qu'il est là, l'héritage des Skyblog. Le souvenir d'un web plus petit.
Merci à Lucie Ronfaux pour cette série réalisée par Solène Moulin pour Programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler et à ce week-end pour une petite surprise.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.